Occupé la semaine dernière des chapitres 12 et 13 de cet épître. Et par conséquent, de ce que la parole nous dit concernant ce qui est appelé les manifestations spirituelles dans l'assemblée. L'assemblée vue comme le corps de Christ, Christ lui-même, mais l'assemblée étant exprimée, représentée dans des rassemblements effectifs de croyants, ici l'assemblée locale à Corinthe. Le chapitre 12 nous a montré le Saint-Esprit distribuant selon sa propre sagesse, une sagesse divine, puisqu'il est Dieu, les dons qui procèdent de Dieu lui-même, dont la volonté s'accomplit ainsi par Jésus comme Seigneur, le Christ donnant à son assemblée, c'est ainsi qu'il nous est présenté dans les Éphésiens. Mais les dons sont répartis, distribués par le Saint-Esprit lui-même sur la terre. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit qui caractérise le chapitre 12, puissance exercée pour la gloire de Christ, dans la reconnaissance et l'exaltation de la seigneurie de Jésus. Les différents dons, dons en rapport avec la parole ou les dons miracles, les dons signes qui étaient destinés à accompagner la prédication de la parole, à la confirmer selon une expression scripturaire, mais dont l'objet était, demeure, d'amener les âmes à recevoir cette parole. Ces dons extérieurs, ces dons signes, nous ont été présentés au chapitre 12 avec ces dons relatifs à la parole, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, dont qui, dans le chapitre que nous venons de lire, se retrouvent prophétie, prophétie, connaissance, révélation, enseignement, et dès la fin du chapitre 12, l'apôtre pouvait dire: désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands. Ces dons qui avaient été présentés en première ligne, tout d'abord, il a placé dans l'assemblée tout d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite alors des miracles, etc. Alors poursuivez, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands. Mais ce désir des dons de grâce excellents et l'exercice de tels dons demande, suppose, exige chez les saints un autre aspect de l'opération du Saint-Esprit dans l'assemblée et dans les âmes individuelles. Et c'est le chemin le plus excellent que l'apôtre place devant eux, devant nous, c'est-à-dire l'amour. L'esprit, qui est un esprit de puissance, est aussi l'esprit d'amour. Et ayant présenté, et de quelle manière, toujours saisissante et admirable, au chapitre 13, l'amour de Dieu appelé à être en exercice et manifesté dans l'assemblée, car tout ceci est en rapport avec l'assemblée. L'apôtre, ayant établi la prééminence, la supériorité de l'amour sur toute autre chose et sur les dons qui attireraient le plus l'attention des hommes et même sur les autres vertus essentielles de tout le christianisme et de toute vie chrétienne, c'est-à-dire la foi et l'espérance, ayant placé l'amour non seulement au-dessus de toute chose ici-bas, mais l'ayant placé dans sa permanence éternelle, l'amour ne périt jamais. Alors l'apôtre revient maintenant, après cette parenthèse du chapitre 13, car c'est une parenthèse, à ce qu'il avait dit, désirez avec ardeur les dons de grâce plus grands, verset 31 du chapitre 12. Alors maintenant, poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout prophétisez. Et ce chapitre 14, comme chacun le sait et a pu le voir une fois encore donc, par cette lecture, est le chapitre de l'exercice des dons de l'esprit dans l'assemblée. Dans l'assemblée, et même plus spécialement, plus particulièrement, dans les assemblées des saints, dans les rassemblements comme assemblées. Là, le Saint-Esprit, au chapitre 12, distributeur des dons, est vu dans ce chapitre 14 comme celui qui agit par ses dons, comme celui qui les fait s'exercer, comme celui qui préside à leur action dans l'assemblée. Et cette action de l'esprit, elle est marquée par deux grands caractères. Savoir l'amour. Sans amour, il ne peut y avoir aucune action véritable. J'entends d'édification, c'est-à-dire de travail dans les âmes de manière à produire leur accroissement spirituel. Et par là l'accroissement de l'assemblée, car c'est le sens du mot d'édification, construction, n'est-ce pas, accroissement, qu'il s'agisse d'une construction matérielle, qu'il s'agisse ici du corps. La même expression se retrouve dans les Éphésiens. Mais alors la première chose, c'est précisément l'expression du chapitre 4 des Éphésiens, verset 12, sauf erreur, il est parlé de l'édification du corps en amour, pour l'édification de lui-même en amour. La première chose, c'est l'amour. L'esprit, amour, esprit de puissance, esprit d'amour. Mais, une autre chose que nous avons rencontrée, tout au long, accompagnant ce souci de l'amour, du bien de l'ensemble et du bien de chacun, Une autre chose que nous rencontrons là, c'est l'intelligence. L'intelligence spirituelle. L'intelligence qui fait les choses selon une sagesse donnée par l'esprit, selon un ordre qui est nécessaire pour le bien de tous et particulièrement pour la paix. Et c'est là ce qui répond au troisième grand caractère de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, puissance, amour, conseil, ou bon sens, esprit de sobre bon sens. C'est ainsi que nous l'avons dans ce chapitre 14. Et c'est ainsi que peut et doit se faire l'édification de l'Assemblée par l'Esprit, employant qui il veut, mais l'employant de la manière qui seule peut être utile à l'ensemble. De sorte que la comparaison qui est faite dans la plus grande partie du chapitre entre le don de prophétie, résumant, on peut dire, tous les dons les plus grands, les dons de grâce concernant précisément la présentation de la parole, et ce don est mis en contraste avec, ou du moins est mis en comparaison avec les dons qui attiraient l'attention sur eux-mêmes, c'est-à-dire le don des langues, et avec lui, on peut dire, tous les dons signes, tous les dons miracles, et l'excellence de la prophétie est montrée de différentes manières, quant à son utilité, quant à son la sagesse que, de Dieu que qui se trouve là manifestée d'une manière particulière, plus que la puissance, mais aussi, et il est bien insisté sur le, et c'est là que nous retrouvons l'amour en exercice, le souci du bien des autres, le souci de l'utilité et non pas de la propre satisfaction. Le don miraculeux, le don des langues, satisfaisait à la fois l'égoïsme, la vanité ou l'orgueil personnel, sans aucune utilité pour l'assemblée, alors que les dons spirituels qui sont à désirer avec ardeur sont toujours en vue de l'utilité, et pour qu'ils soient utiles, il faut que ce qu'ils donnent soit reçu, puisse être reçu, et soit, selon l'expression que nous retrouvons ici, intelligible. L'amour, l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle, voilà ce qui concourt à l'édification du corps. De tout ce chapitre, c'est évidemment ce mot, édification. Le mot revient 5 fois, et 2 fois le verbe édifier.
À la fin du chapitre, il y a une sorte de résumé général. Lorsqu'il est écrit que Dieu n'est pas un Dieu désordre, mais de paix. C'est un Dieu d'ordre. En toute chose, l'ordre, c'est la volonté de Dieu, rien d'autre. C'est pour la réalisation de cela que des développements aussi sérieux profond nous sont donnés. Parce que nous avons en nous tous ce qui est la source de tout désordre, c'est la chair. Et nous ne sommes pas surpris si tant d'exhortations sont nécessaires, étant donné ce que nous sommes par nature et que nous oublions si volontiers. Et si nous constatons l'état du rassemblement de nos jours, nous pouvons sentir combien un chapitre tel que celui-là est d'une importance qu'on ne saurait en aucune manière surestimé. Que Dieu veuille qu'il en résulte des applications assez pratiques pour que chaque rassemblement et chaque saint en reçoive du profit à la gloire de celui que nous aimons malgré tout, dont la présence nous est malgré tout indispensable, sans lequel nous serions plus misérables que tous les hommes. Ces exhortations sont données, mises à la portée de la foi, de la piété, pour que cette présence du Seigneur soit conservée dans les rassemblements. Qu'il en soit ainsi.
Dans les assemblées des saints, c'est un rôle muet. C'est l'avant-dernier paragraphe qui le rappelle, mais non pas un rôle passif, en ce sens que si le souci est dans tous les cœurs de l'édification commune du bien de l'ensemble, elles auront chacune à sa place. Elles auront le désir de la bénédiction, le souci de l'édification produite, et ce rôle si précieux de la prière avant l'assemblée, pendant que se déroulent les actes divers du rassemblement, en sorte que aussi elle soit épargnée de la tendance qui nous est à tous naturelle, davantage disséquer, voire discuter, voire critiquer, mais tout au contraire, dans la joie de l'esprit qui a produit l'édification, elles pourront apporter dans leur foyer même l'écho, l'impression sanctifiante de ce qu'elles auront reçu et nous avec elles dans cette action de l'esprit au sein de l'assemblée réunie, en sorte que ce que nous considérons ensemble, même si on le comprend, seuls sont considérés les dons visibles, l'action audible de l'action du Saint-Esprit. Il y a pour chacun de nous ici des leçons sérieuses et importantes à retenir et à mettre en pratique. L'Assemblée réunie s'édifie elle-même par le moyen des dons de l'Esprit, la parole de Dieu étant présentée selon les besoins alors actuels, les besoins continuels de l'Assemblée elle-même, appelée à s'édifier elle-même par l'action puissante de l'Esprit de Dieu au milieu d'elle. Nous avons besoin d'être toujours davantage attentifs à ce qui nous est ici enseigné, À ce à quoi il nous faut revenir souvent pour que le déroulement des actions diverses dans l'Assemblée réunie étant un sujet d'exercice avant, pendant et après la réunion elle-même, ce que l'Esprit de Dieu s'est proposé de nous communiquer soit saisi et gardé, qu'il nous en fasse la grâce à l'égard de tout rassemblement.
Parler de l'amour dans le chapitre précédent et au début de celui-ci, c'est que l'amour qui seul permet d'obtenir le climat dans lequel les dons peuvent s'exercer utilement, c'est que l'amour ne se réalise que dans la communion avec le Père et avec le Fils. Donc chacun de nous devrait être exercé à réaliser cet état pour son compte. Tout vrai chrétien a le privilège de pouvoir goûter cette communion. Et c'est la réalisation de cette communion qui donne, notamment pour les exercices des dons, qui donne et l'intelligence dont on nous a parlé, n'est-ce pas ? L'intelligence, le dévouement, l'humilité, l'effacement, le souci de ne penser et qu'au Seigneur et qu'à ceux qui sont siens. Parmi les dons qui sont là dans les débuts, deux sont présentés en mise en relief. C'est celui le don des langues et le prophète. Pour ce dernier en particulier, l'examen de ce qu'il représente est d'une immense utilité.
Dit, et d'abord ce qui m'a été présenté relativement aux sœurs et ce qui a attiré notre attention dans la suite, et nous ramène, je crois, à la pensée, à la notion, à la réalité capitale de tous ces chapitres, c'est-à-dire de l'unité du corps. L'esprit, un même et seul esprit, distribuant ce qui lui plaît et opérant pour le bien de l'ensemble, vu dans cette unité dont un corps organisé est la figure. Et dans un corps vivant et qui fonctionne normalement, la vie est dans toutes ses parties. Il n'y a pas une partie, un membre, une partie quelconque, qui soit inactive. Il n'y a pas de passivité. Le terme a été prononcé tout à l'heure. Les sœurs sont exhortées, il leur est enjoint plutôt de demeurer dans le silence, mais non point dans l'inaction.